pendant 6 mois. Comme le remarquait Sarah dans son article, la première crise de délire de nouveau correspond exactement avec la descente du harare de Rimbaud et dure jusqu'à la mort de ce dernier. Nouveau quitte l'asile quand Rimbaud meurt en novembre 1891. Bien sûr, Germain Nouveau ignorait le sort si triste de son ancien compagnon de route. Mais après l'échec de son installation au Liban et de longues errances en France, Germain tente de nouveau l'aventure orientale à Alger. Il y écrit une missive à Arthur Rimbaud, adressée à Aden, pour lui confier son projet devenir peintre-décorateur à Alexandrie ou à Aden, et lui demande, au nom de leur vieille amitié, des tuyaux. « Je n'ai pas vu Verlompe depuis bientôt 2 ans, écrit-il. » Sarah trouvait très émouvante cette lettre à un disparu. Verlompe, Verlaine, aurait pu lui apprendre la mort de Rimbaud, survenue justement 2 ans plus tôt. Un chuchotement dans la nuit. Il est agréable de penser qu'aujourd'hui encore, des chercheurs tentent de démontrer, avec acharnement à défaut de preuves, que c'est Germain Nouveau qui est l'auteur des illuminations et non pas Rimbald le marin. On n'en saura vraisemblablement jamais rien. Sarah avait patiemment retracé les aventures, les mésaventures plutôt, de Germain Nouveau à Beyrouth et à Alger. Lui aussi avait rêvé d'Orient, au point de chercher à s'y établir comme enseignant dans un collège grec catholique de Beyrouth. Sarah avait parcouru toutes les institutions grecques catholiques du Liban pour essayer de retrouver, dans des archives dispersées par le temps et les guerres, les lettres d'engagement et surtout la raison de son renvoi quelques semaines après son arrivée de son poste de professeur, sans succès. Seule subsiste une légende qui veut que Germain ait eu une liaison avec la mère d'un de ses élèves. Mais au vu de ses états de service français et des nombreux rapports atterrés de ses supérieurs en France, cet homme est tout sauf un enseignant, disait un proviseur. Sarah pense plutôt que c'est son incompétence qui valut la porte à Germain Nouveau. Il reste à Beyrouth, sans argent, sans emploi, jusqu'à l'automne, cherchant à se faire payer ses gages. On raconte qu'il tomba amoureux d'une jeune femme aveugle qu'il envoyait mendier pour 2 à Babydris. C'est peut-être cette femme, aveugle ou pas, qu'il décrit dans un de ses sonnets du Liban qui sont autant de peintures orientalistes. Ô peindre tes cheveux du bleu de la fumée, ta peau dorée et d'un ton tel qu'on croit voir presque une rose brûlée, et ta chair embaumée dans des grands linges d'ange, ainsi comme une fresque. Il finit peut-être par obtenir gain de cause et quelques dédommagements, ou bien être rapatrié par le consulat de France vers Marseille, sur le paquebot Tigre des messageries maritimes qui fait escale à Jaffa. Le très chrétien Germain Nouveau ne peut résister à la proximité des lieux saints et se rend à pied à Jérusalem, puis à Alexandrie en mendiant son pain. Il embarque à nouveau quelques semaines plus tard sur la Seine, qui rejoint Marseille et retrouve Verlaine, l'absinthe et les cafés parisiens au début de l'année 1885. J'ouvre cette pléiade qui rassemble Nouveau et Lautréamont, l'Orient de Germain avec l'Uruguay d'Isidore. Cette pléiade dans laquelle aujourd'hui Ducasse de Lautréamont trône seul, débarrassé de son rival accidentel. C'est le destin d'Humilis, selon le nom qu'il s'est choisi. Le poète mendiant, le fol en Christ, n'a jamais souhaité rééditer le peu de son œuvre publiée. Et aujourd'hui, c'est du moins la conclusion de Sarah, elle brille, Stella Maris, comme une étoile cachée derrière les nuages de l'oubli. C'est fou que je mourrais du reste, mais oui, madame, j'en suis sûr, et d'abord de ton moindre geste. Fou de ton passage céleste, qui laisse un parfum de fruits mûrs. De ton allure alerte et franche, oui, fou d'amour, fou de ton sac.